À quoi tu penses?
Plus ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler rentrée scolaire, puisque oui, ça se prépare. Et puis à Migné-aux-Ans, il y a un petit peu de grabuge. Les parents ne sont pas trop contents d'apprendre une fermeture de classe. On en parle en seconde partie d'émission. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Mais tout de suite, on accueille nos premiers invités du jour. Il s'agit de Corinne Bor, qui est directrice de cabinet de la préfecture. Bonjour.
Bonjour.
Et Muriel Rau, qui est directeur interdépartemental de la police nationale. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour parler donc du bilan de la sécurité 2024. Alors, vous avez effectivement tiré ce bilan il y a quelques jours. Et quel est globalement le constat qu'on peut tirer? Est-ce que c'est plutôt une hausse, plutôt une stagnation, stabilisation, s'il fallait faire un bilan général?
Je dirais, en bilan général, que sur la Vienne, il y a une relative stabilité des questions de sécurité et du coup des délits, puisqu'on a, en matière d'attente aux biens, une petite hausse sur certains items, comme le vol touchant les voitures ou les infractions relatives aux stupéfiants, et puis une baisse sur... c'est le vol par infraction qui augmente, mais les vols touchant les voitures baissent et les destructions et incendies baissent. Sur les personnes, pareil, une baisse des vols avec violence et de la délinquance dans les transports, malheureusement. Une augmentation, encore une fois cette année, des violences intrafamiliales et des infractions sexuelles, qui est pour nous un grand sujet.
Alors oui, eh ben on peut commencer par ça. Effectivement, ces violences intrafamiliales qui augmentent de 5% en 2024. Quelles mesures supplémentaires vous envisagez pour mieux protéger les victimes, prévenir ces violences?
Alors, mieux protéger les victimes, on a un dispositif extrêmement construit sur le département, en lien avec monsieur le procureur et l'administration judiciaire d'accueil des victimes dans les commissariats ou les gendarmeries, de suivi des victimes, d'accueil de l'ensemble des familles, à la fois au commissariat, à la fois à l'hôpital, à la fois à la maison des familles de la gendarmerie. Donc la prise en charge des victimes, j'ai envie de dire, est assez optimale. On est innovant dans la Vienne. Maintenant, notre enjeu, c'est diminuer le nombre des victimes. Et donc, il y a à faire et à travailler la prévention, se dire que non, quand on boit un verre le soir, on ne rentre pas pour taper sa femme ou son mari, parce que ça existe aussi, et qu'on se constate, et c'est pour ça que je parle de l'alcool, c'est qu'il y a souvent un fond d'alcool sur les violences intrafamiliales. Après, on a noté aussi que 35% des violences intrafamiliales, elles étaient sur des mineurs. Et donc, non, on n'en profite pas non plus pour taper sur ou maltraiter. Ça peut aussi être du harcèlement. Ses enfants, son conjoint ou sa conjointe, dans une relation de couple, que s'aimer, ce n'est pas ça.
Donc la prévention à mettre en place. Une hausse des infractions en 2024 liée aux stupéfiants. Vous parlez d'alcool, il y a aussi la question des stupéfiants. Là aussi, quel est le constat et quelles sont les solutions que vous souhaiteriez mettre en place?
Alors sur les stupéfiants, on a un travail de harcèlement systématique des points de deal, et c'est normal. Tous les territoires. En fait, ce n'est pas, ça a l'air évident comme ça, ce n'est pas qu'une question urbaine, ce n'est pas qu'une question de quartier sensible, ce n'est pas qu'une question de point de deal. On se rend compte, lors des contrôles routiers, qu'il y a beaucoup de constatations d'usage de stupéfiants au volant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait une perquisition à l'issue et on se rend compte qu'il y a des consommateurs, qu'il y a des dealers, qu'on conduit sous stupéfiants, ce qui génère plus de morts sur nos routes. Et d'ailleurs, en termes de bilan de sécurité routière, ça a été catastrophique en 2024, puisqu'on a plus 6 victimes, 6 décès sur les routes. Et donc, on a cette question-là. Et puis, on harcèle les points de deal. Et ce qu'on constate aussi sur... c'était 567 opérations coup de poing. C'est énorme. Sur 567 opérations coup de poing, on a 456 dealers arrêtés. Donc, presque à chaque fois, j'ai envie de dire, ça fait mouche. Et surtout, on se rend compte que sur chaque point de deal, il y a de la résine, du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, et de plus en plus, une arme de poing. Ça veut dire qu'il n'y a pas de drogue ludique ou festive. Qu'aux endroits d'achat, il y a de tout, avec tous les risques qui en sont liés.
Et avec potentiellement de la violence. D'ailleurs, il y a eu les opérations PlaceNet hein, qui ont été très médiatisées, ce qui ont mobilisé d'importants effectifs. Quel bilan on peut en tirer dans la Vienne?
D'abord, à chaque fois, on a démantelé des points de deal. On en a démantelé 3 sur la Vienne, donc c'est considérable. Que ces opérations, elles peut-être portent pas bien leur nom, elles sont pas simplement qu'un coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va chercher tout le réseau qu'il y a autour. Mais peut-être, commissaire, vous voulez compléter sur les opérations de PlaceNet parce que c'est souvent dans vos mains.
Oui, en ce qui concerne les opérations PlaceNet, bon, qui vont changer d'appellation d'ailleurs, hein, puisque on abandonne cette dénomination, mais on garde toujours le principe d'opération coup de poing sur des objectifs définis. La finalité, c'est sur un endroit donné où on a identifié des points de deal, de mettre une pression constante sur une durée de l'ordre de 3-4 jours. Avec une approche un peu multidisciplinaire puisqu'on fait aussi bien de la police judiciaire pure sur le trafic de stupes lui-même que de la police administrative sur l'environnement global. Donc le but c'est sur des lieux définis de mettre une pression un petit peu durable pour faire cesser le trouble sur les lieux identifiés comme des points de deal.
Par contre, elles ont été accusées, ces opérations d'ampleur, de déplacer peut-être parfois les difficultés.
La difficulté de ce type d'opération, c'est que effectivement, il peut y avoir un risque de report de la délinquance. Après, je pense que les personnes qui habitent sur les lieux où on déplace le problème sont plutôt satisfaits que celui-ci se déplace.
Oui, c'est effectivement un peu compliqué à gérer. En tout cas, quels sont les outils que vous souhaitez mettre en place pour développer la sécurité. On peut parler peut-être de la vidéoprotection. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitez développer sur le territoire?
Alors, c'est quelque chose qu'on fait en partage, parce qu'en fait, la sécurité, c'est l'affaire de tous. De la préfecture, des forces de l'ordre, bien sûr, police, gendarmerie, de la douane, dont on n'a pas parlé, mais qui fait aussi des actions de contrôle sur les autoroutes et sur les flux. Mais c'est... l'action des maires, l'action des établissements publics qui peuvent aussi mettre des vidéoprotections, c'est l'affaire de chacun. On a des dispositifs larges, de la vidéoprotection qu'on essaye de développer et encourager en partenariat avec les communes, mais des opérations de participation citoyenne qu'on fait aussi avec les communes et les citoyens qui permettent à chacun d'être attentif à l'autre et de se dire « Tiens, mon voisin est en vacances, j'ai vu quelqu'un passer chez lui dans le jardin hier, pas l'air d'être normal, donc je vais appeler. » Oui, ce rapport à l'autre...
Qu'est-ce qu'on appelle les voisins vigilants?
Alors, ça s'appelle, en fait, participation citoyenne, opération voyant vigilant, c'est autre chose, mais ça permet d'être attentif à l'autre, de se sentir solidaire dans un quartier, et ça fait du bien, on ne se sent plus seul. Et déjà ça, c'est lutter, c'est promouvoir de la tranquillité, tout simplement. Hein. C'est aussi mobiliser les actions de prévention et de médiation. Et pour prendre le volet aussi réparation, qui est aussi important, c'est un travail qu'on l'on fait avec le procureur, susciter le travail d'intérêt général. Parce que réparer, participer à donner du sens à la sanction, c'est aussi un moyen de se dire, bon, là, ça ne s'est pas bien passé, je n'ai pas bien fait, je n'étais pas dans le collectif, je me réintègre, je participe, je comprends ce que j'ai fait et je participe à la réparation. C'est ça, l'ensemble des actions que l'on évoque quand on dit la sécurité, c'est l'affaire de tous.
Alors, il y a eu des faits particuliers qui ont touché les lieux de culte dans la Vienne. Comment on explique ces phénomènes et comment ils ont été, comment on prévient la suite pour que ça ne se reproduise plus?
Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques faits. On a eu 24 églises qui ont subi des dégradations, des vols de biens. On a Saint-Hilaire qui a vécu un incendie. On n'a pas que les églises qui sont touchées, on a eu aussi des tags sur des mosquées par exemple ou des choses de cette nature. Donc là sur Saint-Hilaire, j'ai envie de dire, la police a œuvré et rapidement puisque le coupable a été arrêté, pas jugé puisqu'il a été déclaré irresponsable, mais l'affaire a été rondement menée par les services de police et ça nous a amené à réfléchir à la sécurisation des lieux de culte. Donc, on a passé un protocole avec l'évêché, puisqu'il y a une structuration départementale pour l'Église catholique qui nous a permis de mobiliser les forces de l'ordre, police, gendarmerie, le procureur, l'évêché et la préfecture, l'association des maires, les maires ruraux et les maires de France, qui sont pour la plupart propriétaires des lieux de culte, enfin des plus anciens en tout cas, de façon à mettre en place une procédure, de façon à porter plainte, faire des tournées régulières dans les tournées des forces de l'ordre et veiller à la sécurité de ces lieux de culte. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas pris en compte non plus, puisqu'on a dans les patrouilles des forces de l'ordre, police, gendarmerie, mais plutôt police, puisque c'est plutôt en zone police que se situe à la fois le lieu de culte juif et les mosquées, la synagogue et les mosquées. Et donc, il y a un passage régulier pour que tout le monde puisse, en fait, exercer sa conviction et sa liberté de conscience et que chacun puisse le faire tranquillement. C'est exactement ça, la laïcité, en fait. Et donc, on a financé, cofinancé, aidé à la vidéoprotection de certains lieux de culte. Les référents sûreté de la police sont allés aider des lieux de culte à assurer la sécurité de leurs fidèles. On avance comme ça, parce que la liberté de conscience, elle est fondamentale en France. Puis, c'est peut-être la liberté, notre liberté la plus intime. Il faut qu'on puisse exercer notre liberté la plus intime en toute sécurité et sérénité.
Et on va terminer sur le besoin justement de nouveaux policiers. Vous recrutez actuellement des policiers adjoints. En quoi ça consiste et quel profil vous recherchez ?
Alors les policiers adjoints, c'est un dispositif qui est assez ancien, qui date de l'époque où on parlait d'adjoints de sécurité. En fait, ce sont des jeunes gens qui sont au seuil de la vie professionnelle et qui souvent sont intéressés par les métiers de la sécurité et qui veulent tester un petit peu, voir si cela leur convient. Donc ce sont des contrats de 3 ans renouvelables une fois, qui concernent les 18 jusqu'à 30 ans. La nouveauté sur ce dispositif, c'est que on va faire un recrutement local au niveau du département, ce qui va permettre, on l'espère, de toucher plus les jeunes qui auparavant étaient peut-être un petit peu intimidés de devoir se rendre sur Bordeaux pour passer ce type de test. Le dispositif que je décris est tout à fait accessible sur le site Police Nationale. Alors peut-être que le mieux, c'est que je renvoie les personnes qui sont intéressées pour les détails sur ce site. Sur la partie recrutement policier adjoint, ce que je peux en dire concernant la Vienne, donc c'est qu'on a actuellement ouvert les inscriptions pour les volontaires. La clôture, c'est au 14 avril pour déposer ces candidatures. Le principe, c'est le principe que l'on retrouve dans la plupart des concours administratifs. Hein, c'est une épreuve écrite et sportive. suivi en cas de succès d'une épreuve orale. L'ensemble de ces épreuves se tiendront ici localement sur Poitiers. Ça aussi, c'est important à souligner. C'est un peu la nouveauté de ce dispositif. Sur les épreuves elles-mêmes, je renvoie sur le site, mais elles consistent pour la partie écrite, en un test psychotechnique assez classique sur les concours administratifs. Et à une description d'une photo, c'est-à-dire donc un récit à partir d'une photo. Pour les épreuves sportives, il y a deux tests qui nécessitent pas un haut niveau en termes de capacité physique, mais qui exigent quand même que les gens fassent un petit peu attention à leur santé et qu'ils soient quand même un petit peu capables de courir aussi.
Pour une femme, il faut tenir une planche 1 minute 15. Ça va.
Bon, enfin, un peu d'entraînement quand même, mais ça se fait.
On veut juste s'assurer que ce sont des personnes qui sont aussi bien dans leur tête que dans leur corps.
C'est noté. Merci beaucoup à tous les deux, donc Corinne Barre et Muriel Rowe, d'être venus nous parler de la sécurité dans la Vienne et donc de ce recrutement des policiers adjoints. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
On continue en musique avec Awoga et ce titre Into the Dream.
De professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
Les étoiles en plus.
Et on accueille maintenant Marine Genevoura et Maïlis Gachet, qui sont toutes les deux représentantes des parents d'élèves de l'école maternelle de la République de Migné-Auzance. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, je sais que vous êtes actuellement mobilisées pour défendre votre école. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans les studios. Mais pouvez-vous nous expliquer comment vous avez appris l'annonce de la fermeture de classe à Migné-Auzance et en quoi ça vous a surpris et donc mobilisé?
Alors, bonjour. En effet, du coup, ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a toujours des réunions préparatoires. Ces fermetures, à la fameuse carte scolaire pour l'année suivante. Et en fait, dans ce qui a été publié en première instance dans la presse, il n'a jamais été question de l'école de la République de Migné-Auzance. Et c'est en deuxième réunion, en gros, hop, c'est sorti, mais en groupe de travail, ça n'avait jamais été envisagé.
Et alors, pourquoi vous opposez à cette décision de fermeture? Quels sont les arguments que vous avancez pour la conserver?
Alors, nous avons conscience que l'effectif annoncé actuellement est un peu faible, mais nous restons conscients aussi que nous sommes qu'en février, donc une école maternelle, on sait très bien que les parents ne pensent pas forcément à faire leur inscription tout de suite. Donc on sait que les arrivées peuvent se faire, les inscriptions peuvent se faire d'ici septembre. Et en plus, nous avons au bout de la rue de l'école tout un lotissement qui est en pleine construction, des logements sociaux qui vont pour nous potentiellement amener des familles et qui seraient livrés en avril 2026. Donc ce qui veut dire que pour la rentrée de septembre 2025, il n'y aurait pas tous ces inscrits, mais en cours d'année, on risque d'avoir de nombreux inscrits, et voire possiblement pour la rentrée de septembre. Donc, on se dit fermer une classe, certes, mais si c'est au détriment des enfants qui vont arriver plus tard et monter les effectifs après, est-ce intéressant ?
Oui, ce que vous reprochez, c'est qu'il y a ces données effectivement qui n'ont peut-être pas été prises en compte puisque c'est juste des tendances d'effectifs sur les données actuelles. Vous avez rencontré les personnels de l'académie, inspectrices, adjoints. Quelles ont été les discussions avec eux ?
Alors en fait, on a aussi une particularité sur Mignozan, c'est qu'on a aussi deux écoles privées qui aussi génèrent et où il y a des enfants qui partent aussi dans le privé. Donc tout ça, ça a été vu. Il y a aussi sur notre école, c'est une petite école puisque c'est 3 classes. Donc fermer une classe, ça veut aussi dire stopper une dynamique qui potentiellement reprendra l'année d'après, mais pas avec l'enseignante qui perd son poste puisqu'elle n'est pas forcément prioritaire quand elle revient, sachant que cette enseignante est de la commune et est aidante familiale. Donc elle a en plus une spécificité, ça c'est pris en ligne de compte, mais il résonne en termes d'effectifs et pas forcément des fois plus loin ça, ils sont à un moment donné c'est basé chiffres.
Alors, vous avez lancé une pétition qui a reçu quelques centaines de signatures, je crois, en quelques jours.
Actuellement, on est à peu près à 460 signatures, un petit peu moins de 500 en une semaine. Donc, ça montre aussi l'attachement que de nombreuses familles ont à cette école et aussi tout le quartier également de Mignozan.
Et quelles seraient, selon vous, les conséquences concrètes de cette fermeture de classe sur la qualité de l'enseignement dans cette petite école et puis peut-être le bien-être des élèves aussi ?
Oui, tout à fait. Alors, passer de 3 classes à 2, ça casse bien sûr une dynamique. Actuellement, nous avons un gros projet sur l'école qui est la classe dehors, qui est notamment menée par également l'enseignante qui risque de partir. Donc, ça risque de casser cette dynamique. Et puis, on sait très bien aussi que 2 classes ensemble, la dynamique pédagogique n'est pas la même. En tant que parent également, on pense aussi au cas, nous sommes actuellement en plein pic de la grippe, en cas de fermeture parce qu'il y a une enseignante malade, on sait très bien qu'il faut qu'on se débrouille pour garder nos enfants. C'est vrai que ça reste des petits qui sont en maternelle avec en petites sections, et donc 23-25 élèves par classe, ce n'est pas confortable pour nous.
Donc vous vous étiez déjà mobilisé la semaine dernière, vous êtes à nouveau mobilisé. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui ?
Alors même si c'est peu probable puisque c'est l'adjoint d'Azen, Monsieur Artaud, nous a laissé peu d'espoir jeudi dernier, on espère néanmoins qu'il prenne en compte la spécificité de cette petite école et qu'il nous laisse cette classe ouverte en sachant qu'il y a des arrivées potentielles, qu'il y a aussi une fuite vers le privé et que fermer cette classe va accentuer ce phénomène de fuite vers le privé et de dynamique qui va complètement être cassée dans cette école.
Est-ce que vous avez reçu le soutien d'autres acteurs locaux, les élus, des associations de cette mobilisation ?
Alors oui, tout à fait. La mairie, malgré le fait qu'elle ne peut pas être présente là ce midi devant le rectorat avec nous, la mairie est tout à fait nous suit depuis le début sur ce projet. Elle n'a pas forcément non plus le choix toujours quand on parle chiffres, mais en effet la municipalité nous suit complètement. Les élus, je pense que ça a été de montrer dans tous les journaux, tous les élus, les sénateurs, les députés de la Vienne ont tous été contre la carte scolaire. Et c'est à noter que cette année, pour des premières fois, ça a été voté en réunion quand ça a été présenté, donc la deuxième réunion, ça a été voté contre, c'est-à-dire que tous les syndicats ont voté contre cette réunion, contre cette carte scolaire, ce qui explique qu'on se retrouve ce midi de nouveau devant le rectorat, parce qu'il y a une deuxième réunion avec les syndicats, les représentants, etc., pour défendre les classes et les non-fermetures.
Et donc profitez-en, quel message vous souhaiteriez adresser directement peut-être à l'Académie de Poitiers ?
Qu'ils pensent à nos enfants, fermer des classes pour en rouvrir une année après, c'est leur promesse. Ils nous promettent aussi d'être réactifs, mais on sait par expérience que c'est plus facile de fermer une classe que d'en rouvrir. Donc on aimerait bien qu'ils pensent aussi au confort de nos enfants. Des petits ne peuvent pas être bien dans une classe à 28. Hein. C'est, même si une enseignante est très bien et essaye de gérer la classe, ça fait un voit pas possible. Moi, j'ai notamment le témoignage entre ma fille et mon fils. Quand on a son enfant qui rentre le soir parce qu'il est en pleurs parce qu'il a fait trop de bruit, ce n'est pas possible. Mon fils, qui a connu une classe à 16 cette année, on voit la différence. Il est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Il se développe très bien et c'est agréable. L'équipe aussi, pensez aussi à l'équipe pédagogique qui, elle, subit ces conditions de travail. Et je pense que plus on accentue ces fortes classes, moins on donne aussi l'engouement pour ce métier et la passion.
Merci beaucoup à toutes les deux, donc Marine Genet-Bourra et Maïlys Gachet, donc représentantes des parents d'élèves de l'école maternelle de la République de Migné-aux-Anses. Et vous êtes actuellement sur place devant le rectorat pour manifester contre cette fermeture de classe. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Et demain, ne ratez pas Séquence Midi, bien sûr, à 12h30. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. On commence par la finale Poitvine du concours Ma thèse en 180 secondes. Donc, c'est à 19h à la Maison des étudiants, là où nous sommes actuellement sur le campus de Poitiers. Chaque doctorant, doctorante a 3 minutes pour faire un exposé de son sujet de recherche dans un langage accessible à tout le monde. Le challenge consiste à convaincre un auditoire grand public, et cela quel que soit le sujet de recherche. Donc, 19h à la Maison des étudiants. Personne n'y comprend rien, aux 400 coups. Donc, projection de ce film qui raconte le procès de la faire des financements libyens et qui va vous permettre de tout comprendre sur cette affaire. C'est à 18h au cinéma Les 400 coups à Châtellerault. Et enfin, le Conservatoire de Grand Poitiers vous propose le 4e concert de sa saison Prima la Musica. C'est une saison de concerts professionnels. C'est à l'Auditorium Saint-Germain. Ça s'appelle Un piano suffit-il. C'est une œuvre donc à 4 mains, 2 pianos. C'est à 20h30 avec Alain Villard et Alan Kenneth. Donc les deux pianistes vous propose des œuvres de Schubert, Brahms et Rachmaninov, des œuvres prévues pour donc 4 mains et 2 pianos. Sur Pulsar à 18h, c'est Talasso qui reçoit Info Jeune. À 19h, Slam à Touba, de l'impro, de la poésie, du slam et peut-être vous aussi en impro. À 20h, Pétale de Sakura, on part en Asie. À 21h, Culture Dub avec toutes les dernières sorties Roots, Reggae, Digital, Dub, Stepa, Electro Dub. Et puis la sortie de Culture Dub Records avec le deuxième single de All Stars. Et puis vous pourrez gagner votre ticket pour Perpi Dub Night. Et à 23h, c'est Novorama. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. On se quitte avec Nubia Garcia et Georgia Anne Muldrow, ce titre We Walk in Gold du dernier album Odyssée de cette icône de la nouvelle scène jazz londonienne. So
cosmic incandescent power shine through the hour of days, full centering of the star across the earth, making my day so complete. Yeah.